On est autour de la table avec une partie du collège de Rieux-Pérou, la classe de Madame Aubert, de Chantal Aubert, Dédé Bourtoumieux. Et vous allez entendre un petit documentaire sonore d'une demi-heure sur la communication, la résistance par la communication. Bonjour les élèves.
Bonjour.
Donc on est tous partis pour une demi-heure avec Dédé Bourtoumieux, Monsieur Rayette, Chantal Aubert et tous les élèves. Et on se retrouve juste après pour en discuter.
Il y avait un cadre. Nous, c'était l'oreille rouge.
Mon oreille est rouge.
Mon oreille droite est rouge.
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est la larme.
Au printemps 1944, tout près de Rieux-Pérou, des hommes et des femmes déterminés ont choisi d'organiser la résistance dans laquelle ils s'étaient engagés.
D'abord contactés, puis regroupés pour être encadrés, ils formeront le premier camp du maquis du Guesclin, quelque part dans les gorges de l'Aveyron, sous le village de Regardette, à l'abri des châtaigniers de Prévinquière.
Certains de ces combattants n'avaient alors que quelques années de plus que nous aujourd'hui. André Bourtoumieux et Paul Rayette étaient parmi eux.
En répondant à nos questions, ils nous ont livré les souvenirs de leur expérience de maquisard au camp de Mijesol.
Leur témoignage est entrecoupé par les lectures de fragments du journal secret qu'un adolescent de Regardette aurait pu écrire pour garder trace de ce à quoi il assistait, un jeune témoin muet et admiratif.
Bon, il faut le dire une chose, il y avait Radio Londres, on était au courant de tout ce qui se passait, peut-être on vous en a parlé, et on entendait ces appels de Gaulle pour le soulèvement, quoi, votre, vous voyez. Et ensuite, il y avait des réseaux, des résistants qui avaient été constitués à partir de 1941. Et nous, nous n'étions pas encore au courant à cette époque-là. Mais après, on a connu par la suite des gens qu'on connaissait, nous aussi, vous voyez, comme le commandant René, le commandant Fabre.
On les connaissait très bien, mais on ne savait pas qu'ils faisaient partie à Rignac.
Le Cousteau, la Rignac, on s'est senti attiré pour aller vers ce combat de la liberté. Vous savez, aujourd'hui, la liberté, c'était quelque chose qui vous paraît si naturel. C'est quelque chose de naturel, la liberté. Mais pour nous, c'était pas pareil. C'était pas pareil.
Si j'écris aujourd'hui sur ce carnet, c'est pour décrire ce que je vis en ce moment et tout ce qui a changé depuis le début de cette guerre qui n'en finit plus. Il y a de plus en plus de quittaires venant du Midi. Ils viennent pour fuir ou pour chercher de la nourriture qui apparemment se fait de plus en plus rare. Ils échangent des vêtements contre de la nourriture. En plus, ils nous donnent des nouvelles. Les derniers nous ont assuré que les alliés approchaient. On va bientôt en finir avec ces Allemands qui nous prennent tout. Mes parents ont de plus en plus peur. Moi aussi, je commence à avoir peur. Tout à l'heure, un mouchard est encore passé. Je déteste cet avion. Il rappelle le malheur et les combats.
Parlez-nous de la naissance et du développement du maquis du Guesclin.
Si vous connaissez la route, quand vous allez de Rieux-Pérou à Rignac par la voie Sonade, vous arrivez avant d'arriver au pont de Mirabel en face. À moitié côte, vous avez une cabane de forestiers où ils faisaient du charbon de bois, paillous.
Ah ouais.
On l'appelait Spada. Et les premiers noyaux de combattants,
ouais, ils ont été là.
Seulement après, les dirigeants, nos chefs historiques, ils se sont aperçus qu'il y avait toujours un afflux de gens qui arrivaient. C'était un lieu qui était indiqué peut-être pour 6 ou 7 résistants, mais pas pour la foule qui arrivait. Donc les chefs historiques ont dit il faut qu'on trouve quelque chose pour rassembler tous ces combattants. Et alors à cette époque-là, Henriette Maillot-Biot, qui était institutrice à Mirabel et qui était agent de liaison, ils sont allés trouver des gens de Regardette pour leur dire où c'est qu'on pourrait trouver, c'est dans la vallée de l'Aveyron, entre le pont de Mirabel et le pont de Prévinquière. Ils ont trouvé les gens de Rignac, il y en a un qui a cédé son terrain pour loger les premiers combattants volontaires de la résistance. Et alors les groupes sont passés de 10 à 30, de 30 à 40, et toujours ça arrivait, pour arriver à un roulement, si vous voulez, de combat, à peu près de 300, vous étiez.
Bon, on était 300, oui.
Allez, 300, ah, bon, bon. Vous voyez, un roulement de combat, et une fois que les gens étaient formés, ils étaient répercutés dans d'autres services. Vous voyez que le camp de Mijesol, ça là, c'est le premier terrain d'entraînement du maquis du Guesclin. Et le poste de commandement était à Regardez. Sans les habitants de Regardez, le maquis du Guesclin n'aurait pas existé. Il fallait soigner tous ces gens-là, tous ceux qui avaient en bas. Il fallait les faire manger. Et qui c'est qui assurait le ravitaillement de tous les combattants, de tous les maquisards? C'était les habitants de Regardez. Mon cousin, vous vous rendez compte, il avait 15 ans. Il partait avec un char à bœufs dans ses travers pour aller ravitailler les jeunes qui étaient là-bas.
Tous les jours.
Tous les jours. Vous vous rendez compte, le courage qu'il avait. 15 ans, si ça vous dit quelque chose. Si les Allemands étaient venus faire un tour à Regardez dans le village, ils faisaient comme au radeau sur Glane. Tout le monde y passait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont eu un courage terrible.
Au début, il n'y avait que quelques hommes qui se ravitaillaient au village. Petit à petit, l'organisation a pris de l'ampleur et je vois de plus en plus de monde. On a ramassé des gens de tout le canton, de Rue Pérou, de Vabre-Tisac, de la Bastide de l'Évêque. Il y a aussi des gens que je n'ai jamais vus avec un accent qui n'est pas avéronais. Les habitants sont tous mobilisés et mon grand frère va ravitailler le camp le matin en partant avec la vieille charrette. Mon père n'a pas voulu que ce soit moi parce que je suis trop jeune. Des rumeurs courent aussi selon lesquelles la maîtresse de Mirabel aide le maquis et qu'elle amène des informations et des messages pour le camp. Tous ces résistants, je les vois, je les entends, je les observe, je les envie et je rêverai d'être parmi eux.
Quand êtes-vous entré dans la résistance?
Lui, 18 ans.
Ah, il ne m'en voulait pas. Hein. Quand je me pointe, il me dit, vous êtes trop jeune. Vous.
Oui. Moi, j'avais 19 ans. Mais il y avait une telle solidarité, comme dit André. Je voyais partir André ou n'importe lequel d'entre nous, ou mes cousins, tout ça. Je disais, mais moi, je veux y aller aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quelque chose d'indescriptible. C'était quelque chose qui venait de notre conscience.
Aujourd'hui encore, en ce mois de mai, les résistants sont venus chez nous. Malgré l'interdiction d'aller les écouter, j'ai entendu derrière la porte ce qu'ils disaient. J'ai cru comprendre que certains s'étaient révoltés contre le travail obligatoire, nommé STO, qu'imposent les Allemands. Ils ne veulent pas travailler pour fabriquer des bombes pour tuer les Alliés. D'autres combattent simplement pour la liberté, que tout le monde devrait avoir. On dit même qu'un jeune, venant de la Moselle, je crois, est arrivé jusqu'ici en vélo pour entrer ensuite dans le maquis. Je trouve le courage de ces hommes qui se battent pour des valeurs fondamentales incroyables. J'aimerais tellement, moi aussi, entrer dans le maquis et partir à l'aventure, comme eux. Quand ils racontent les péripéties de leur mission, avec des yeux pétillants, tout le monde les regarde avec intérêt. Il paraît même que Marcus a fait passer un message en le mettant dans les pneus de son vélo. Si la Gestapo ou des miliciens l'avaient capturé, il aurait risqué le peloton d'exécution.
Vous aviez peur d'entrer dans le maquis?
Et non, on a bien voulu y aller.
Non.
Pourquoi peur? Là, c'était pas une contrainte. C'était une initiative personnelle, malgré qu'on soit très jeune, puisqu'André vous a dit qu'à 18 ans, on ne voulait pas le prendre.
Ouais,
moi, j'en avais 19. Mais on a dit il faut y aller. On était quand même pris d'un certain idéal.
Un temps que sur toutes les places, un vol de loups à la solde d'Hitler, ici venaient passer leurs menaces en se vantant qu'ils tenaient l'univers. Mais un matin, les fils de la montagne, les maquisards, tombèrent comme l'éclair, tous ensemble, sur les bandits d'Allemagne qui fuyaient à coups de pied. Ô rocher de Mirabel, bois de Prévinquière, notre cœur de 20 ans vous doit fidélité. D'abord, que le maquis, un jour dans la clairière, y a éclos et chanté la liberté.
Avez-vous conscience des risques que vous preniez ?
Oh là là, au départ peut-être pas.
Pas mais trop, après, non.
Mais après, quand ils sont partis au combat, oui.
Oui, mais tu sais...
Bien sûr.
On ne passait pas trop à ça.
On était conscients.
On était un peu inconscients quand même.
On était jeunes. Parce que les chefs historiques, ils avaient 35, 40 ans, vous voyez ce que je veux dire.
Ils étaient
pleins de maturité.
Inconscients.
Mais à 18 ans, 19 ans, la fleur de la jeunesse, bon, on était conscients de l'occupation des Allemands. Et donc,
nous frappait, c'est si un copain il y restait. Et comment ça arrivait? Oui. Mais autrement, à part, non, on n'y pensait pas trop. Non.
On pensait qu'à une chose, faire partir les Boches.
Les marins, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les militaires français, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air. J'invite les ingénieurs.
Il faut que je vous dise, c'est très important. Le maquis du Guesclin était une organisation militaire, armée secrète, reconnue par Londres. Et on était encadré par des militaires. Vous voyez, des militaires d'actifs ou de réserve. Donc, à la suite que l'armée française est capitulée en 40, ce sont des militaires qui ont voulu poursuivre la lutte comme leur avait demandé De Gaulle. Or, à cette époque-là, on a compté jusqu'à 28 maquis dans le département de l'Aveyron. Mais on agissait, ces maquis agissaient sans coordination. On ne savait pas ce que faisait le maquis Antoine, on ne savait pas ce que faisait le maquis d'Espalion, ce que faisait le maquis d'Aubrac. Donc De Gaulle a demandé à Jean Moulin, qui avait été préfet de l'Aveyron et qui était rentré dans la résistance, qui était allé à Londres, De Gaulle a confié à Jean Moulin le soin d'organiser les réseaux de résistants entre eux. C'est pour ça qu'à la suite... il y a eu une organisation qui a fait qu'on a pu communiquer entre nous. Exemple, le combat de Carmaux avec le maquis Antoine de Sauveterre. Donc, nous, avec André, on était des témoins, des acteurs, mais on ne connaissait rien de ce qui se passait autour de nous. Parce que j'en reviens aux structures du maquis, cette organisation militaire n'avait pas voulu concentrer sur un seul lieu, si on peut dire, tout l'organisation du maquis du Guesclin. Donc, il y avait un camp d'entraînement des hommes qui était à Mijesol, dans la vallée de l'Aveyron, dans les gorges d'Aveyron. Il y avait un poste de commandement à Regardet, avec le colonel Leroy et De Villiers, il s'appelait, je crois, et le commandant Verdier, Wurtz. Oui. Voilà. Ensuite, il y avait un parc automobile. Il y avait la structure de l'intendance. Il fallait toute une structure pour l'intendance. L'intendance, le domaine d'intendance, était à Rabre-Tizac. Et c'était le capitaine Crémer, Richepal, qui était le responsable. Et ensuite, il y avait l'hôpital de santé. Il était au Suc, là, à laquelle on soignait tous les blessés du maquis, les blessés ou les malades. Le Beaujing a sauvé des gens dans l'hôpital de santé à Rieux-Pérou. Et ensuite, il y avait le terrain de parachutage. Londres faisait des parachutages pour ravitailler les combattants. Et le terrain de parachutage était à Lunac. Vous voyez un petit peu la diversification, assez complexe d'ailleurs, de la structure du maquis du Guesclin.
On faisait des cabanes, on avait des rondelles de bois. Et là, on savait très bien que les Allemands savaient où nous étions, qu'une fois, deux fois par semaine environ, il y avait un avion qui piquait sur nous, un avion de
d'observation, tourisme.
Un mouchard qu'on appelait. Il arrivait, moteur arrêté, on entendait que le bruit du vent dans les ailes de l'avion. On voyait le pilote comme je vous vois. Si on avait voulu descendre, on pouvait le descendre. Hein. Mais seulement, on avait la trouille qu'il y ait des représailles, parce qu'à ce moment-là, ils auraient été forcés de venir chercher leurs pilotes et tout. Les gens des environs, ils auraient dégusté sans ça. On aurait sûrement pu le descendre, parce qu'il volait au ralenti. Il était à ça à l'heure, tu l'aurais descendu comme un perdreau. Pour la surveillance du camp, tout autour du camp, il y avait des postes de garde.
Des postes de garde.
On avait un poste de garde après Benguerra. Il y en avait un autre à regarder, bien sûr. Et puis après, il y en avait
un à Mirabel. Il y en avait un à Mirabel aussi.
Les postes éloignés, comme Benguerra, on était reliés par un fil téléphonique. On pouvait téléphoner d'un poste à l'autre. Les postes de garde autour du camp, c'était... Il y en avait là, c'était... il n'y avait pas besoin de téléphone. Ça, c'était la couverture.
Vous vous écriviez entre vous?
Pas du tout. Par là, de temps en temps...
On n'a jamais écrit.
Je vous ai dit le contexte, jamais ça. C'est que Pétain avait organisé cette fameuse milice. Les Allemands, c'était la Gestapo, qui a fait des ravages terribles en Aveyron, la Gestapo, et la milice française, qui était à la solde d'Hitler. Et parmi les miliciens, vous savez, entre nous, comme vous dit André, on avait une certaine méfiance. On disait, mais bon, un tel, on ne sait pas qui c'est qu'il est. Si, par exemple, je parlais mal d'un tel et qu'il soit milicien, hop, ça y est, vous voyez, ou que je dise un mot qui ne soit pas conforme à leur domination, ils dominaient, voilà, ces gens-là. Et on était, et en plus vous aviez des gens qui faisaient de la délation, même parmi des partisans d'Hitler, il y en avait en France. Hein. Non, vous savez, c'était une époque insoutenable parfois.
Quelle a été la première opération du maquis du Guesclin?
À Rodez, il y avait la Société française des pétroles, c'était là où était stocké le pétrole. Et alors là, il leur fallait du carburant. Et carburant au maquis, et il y a eu une concertation entre les maquis d'Espalion, le maquis de Belmont et le maquis du Guesclin, qui avait organisé un rap, si on peut dire, de se ravitailler en pétrole. Et là, un commando qui s'en va de Rieupérou, les voilà partis à Saint-Félix, et quand ils sont arrivés aux abords de Saint-Félix, ils ont été sous les feux des Allemands. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs versions. Nous, on nous avait dit qu'un milicien s'était incorporé, ou connaissait ce renseignement, il l'aurait transmis à la Gestapo et à l'armée allemande, et c'est pour ça que les Allemands avaient organisé cette embuscade. Il y a 5 de nos camarades qui ont été tués.
Ils étaient 6 dans la camionnette.
Donc là, le premier combat de Tuéclin. Bien avant la guérilla aux Allemands, il y avait eu beaucoup de sabotage, de plasticage. Il fallait empêcher les troupes allemandes d'être ravitaillées. Alors les maquisards allaient faire sauter des lignes à haute tension qui alimentaient les usines du bassin houillé qui travaillaient pour les Allemands. Il fallait faire sauter les voies ferrées, mais là parfois, souvent les cheminots, il y avait des cheminots qui étaient résistants. Ils n'étaient peut-être pas combattants, mais ils étaient résistants. Et grâce à des réseaux locaux, à Villefranche ou autre, ils allaient déboulonner les voies ferrées quand ils savaient que c'était un transport de troupes allemandes qui partait, ou des ravitaillements qui arrivaient en Allemagne, en armes, tout ce que vous voulez, voyez, pour ravitailler l'armée allemande. Donc il y avait des plasticages, ça allait même très loin. À Villefranche, je me rappelle, ils avaient plastiqué le château pour que les locomotrices ne soient pas ravitaillées. Mais je me rappelle d'une chose. Quand Danton de Montbazin est venu alerter le maquis à regarder, il est venu chez l'oncle Isali, il a dit, les combattants des commandos Hubert, ils sont aux Alpes, ils sont accrochés, les Allemands allaient pour réduire le commando Hubert qui se situait aux Alpes. Alors donc, vite, le nécessaire a été fait pour aller soutenir les combattants des Alpes. Et les voilà partis sur une camionnette, vous savez, elle n'était pas bâchée ni rien. C'était une camionnette à découvert. Je les vois partir, mes camarades, aller au combat en chantant la Marseillaise. Ça fait mal. Et oui. Par contre, Georges Billon, qui a été tué. Ouais.
En me promenant dans la rue du Balat à Rio Pérou et en regardant au sol, j'ai vu un tract avec dessus la croix de Lorraine, celle du général de Gaulle, celle qui symbolise la résistance. Je l'ai vite tranché dans ma poche, j'ai l'impression moi aussi de faire partie des résistants. Ici à Regardette, au poste de commandement, hier soir, je les ai entendus parler de sabotage. Il paraît qu'ils projettent de faire dérailler des trains du côté de Rodez. On raconte que les cheminots seraient dans le coup. Je n'ai pas pu en savoir plus. Ce qui est certain, c'est qu'à Michesol, ils s'entraînent à manipuler des explosifs. J'aimerais moi aussi participer à une mission difficile.
Mais comment se préparaient toutes ces actions qu'il fallait coordonner en communiquant entre vous?
Vous connaissez Rio Pérou. Vous savez où est le grand bord. Vous avez vu qu'il y a un immeuble qui s'appelle l'Hôtel du Nord. C'était là où il y avait beaucoup qui appartenaient à Frédéric Cavagnac. Il est en photo sur le bouquin là. Et c'est là où il y avait beaucoup de réunions secrètes entre les dirigeants, vous voyez, des maquis, pour monter des coups, ouais, ouais, ou dire ce qu'ils faisaient, ne pas s'empiéter sur les secteurs. Mais l'Hôtel du Nord était un endroit où il y avait pas mal de réunions secrètes, puisqu'il appartenait à Fredo Cavagnac, et Fredo Cavagnac était sympathisant actif de la résistance à Rio Pérou, tout en n'arborant pas le costume de combattant.
Je me souviendrai de ce 5 mai 1944. La veille, je l'ai vu. Un maquisard était venu alerter ceux de Miège-Saul. Ils sont partis peu de temps après. On a su, à leur retour, que tout ne s'était pas passé comme prévu. Sur les 6 combattants, seul le capitaine est revenu. Je les connaissais, ces combattants. Je les ai vus rentrer au maquis, et je les ai vus partir sur la camionnette en chantant la Marseillaise. Ils sont morts pour la résistance.
Aviez-vous eu en main des journaux de la presse clandestine ?
Il y avait un curé ici qui s'appelait le curé Marty. Et plus tard, quand il a fait ses études de théologien, il avait comme professeur le cardinal Saliège de Toulouse. Ça, c'est des choses, je peux vous dire, qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Seul l'abbé Étienne le savait, de Pêche-Lombert, et l'abbé Salès, qui était un résistant. Et ce cardinal, par l'intermédiaire du cardinal Saliège, quand il était curé de Rio-Pérou, il recevait la presse clandestine pour la faire distribuer. Le cardinal Marty recevait cette presse clandestine. Et en plus, il avait une filière, il s'en est jamais vanté. Il y a que l'abbé Étienne et l'abbé Salès qui le savaient. Il avait une filière parce qu'il y avait des juifs. Pendant la guerre, on avait beaucoup de juifs dans l'Aveyron. Ils avaient fui les zones de combat en Belgique, la France, tout ça. Et ils étaient venus dans le sud de l'Aveyron. Et à Rio-Pérou, il y en avait pas mal. Et par l'intermédiaire du cardinal Marty, il a été en Espagne, ils ont pris la filière de l'Espagne pour rejoindre Londres, vous voyez ce que je veux dire? Il me restait quelques journaux, vous voyez, ils ne me les ont pas tous pris. Et alors, c'était des journaux clandestins.
Ici, Londres. Voici notre 9e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène sur l'horizon deux fois.
Comment communiquiez-vous entre vous?
Ça, eh bien, par la VBC, par la radio Londres. Hein. Il y avait un code. Hein. Nous, c'était l'oreille rouge.
Mon oreille droite est rouge.
Voilà. Alors là, je vous expliquais justement, mais le maquis du Mecklin était un maquis militaire. Donc, il était reconnu par Londres, et donc il y avait une constante transmission entre Londres et les maquis reconnus comme armée secrète reconnue par Londres. Parce que les maquis sauvages, il y en a eu d'autres dans le département de l'Aveyron, j'en ai recensé pas mal, qui après se sont dissous et se sont intégrés après à des maquis organisés. Quoi. Donc, ils étaient au courant où était notre terrain d'atterrissage, il était à Lunac. Lunac, là-bas. Et on l'appelait le terrain NURS. N-U-R-S-E, NURS. Et alors là, il y avait justement des maquisards qui étaient affectés directement au parachutage. Alors, dont les parachutages, c'était bon, des armes, puisqu'il en manquait beaucoup, le ravitaillement, pas beaucoup.
Non, il n'y avait pas
d'argent. De l'argent, de l'argent qui était faux, qui était imprimé par...
Plastique, hein.
Oui, de l'argent. Et donc, il fallait assurer, après, quand le parachutage avait lieu, il fallait l'évacuer. Mais donc, le parachutage, il ne fallait pas... Il ne fallait pas le laisser traîner. Aussi, parfois, des conteneurs... Si parfois, des conteneurs tombaient en dehors du terrain de parachutage, il pouvait y avoir aussi des gens qui allaient le récupérer. Et alors, comment se faisaient les parachutages? Donc, c'était des avions de Londres qui venaient. C'était des quadrimoteurs Halifax, qui lâchaient ces conteneurs. Et il fallait qu'ils aient des points de repère pour déposer le conteneur. Ils venaient en pleine nuit. Et alors, donc, c'était les moyens de bord. C'est-à-dire, à chaque extrémité du terrain, il y avait des batteries. Des batteries de voitures, quoi. Et sur ces batteries, ils avaient adapté des sortes de phares. Des phares de voiture.
6 juin 1944. Un grand jour. Les maquisards sont venus nous annoncer quelque chose aujourd'hui. Quelque chose de gigantesque que tous, à Regardette, au poste de commandement, attendaient avec impatience. Ils sont montés pour parler à mon oncle au poste afin de récupérer quelques informations, comme à leur habitude. Une chose différait pourtant. Les quatre maquisards avaient le sourire aux lèvres et en rentrant dans la maison, je les ai entendus dire à ma mère « Les alliés arrivent, la France est sauvée !» Michel, l'une des agents de liaison du maquis du Guesclin, leur avait annoncé le débarquement en Normandie des troupes américaines et anglaises après l'avoir entendu à la radio. J'écoutais, assis dans les escaliers, les cris de bonheur des résistants. Le débarquement ravive la flamme de l'espoir et elle se répand rapidement dans toute la France. Notre France résistante, celle qui fera tomber les Boches. Nous y croyons tous et nous savons que la fin de cette période de guerre est proche. Cela me rappelle les hommes partis pour Saint-Félix, chantant l'hymne français, la main sur le cœur. Eux aussi y ont cru. Ils nous montrent la voie. Suivons-la, prenons le chemin vers la liberté grâce à la nouvelle du débarquement.
Pour nous, le maquis du Guesclin plane toujours sur la vallée de l'Aveyron, le camp de Bigesol, là où avait lieu l'entraînement des futurs combattants, Regardette, le poste de commandement, Mirabel. Nous, pour nous, le maquis du Guesclin, cette ombre plane encore toujours sur nous. Tous les jeunes n'étaient pas à Bigesol ou à Regardette ou autre. Vous aviez des gens, des sympathisants actifs. Hein, qui prêtaient leurs camions et qui risquaient comme nous. Nous, Viale de Lunac, Payot, Arieux-Pérou. On était 1467. À la dernière assemblée générale que nous avons fait à Arieux-Pérou, on est 14, je crois, en tout. 14 sur 1467. On était 7, les plus valides. Les autres n'avaient pas pu venir. Donc, on a dit, on a quand même... moi, j'ai 89 ans cette année. Lui, il me suit un an derrière. On a dit, mais le jour où nous aurons disparu, la mémoire. Vous savez, maintenant, le progrès va tellement vite, l'information va tellement vite, d'un événement on passe à l'autre, ou un événement chasse l'autre. Tout ce qui va rester de la résistance, qui est quand même une page importante de l'histoire de France, tout ce qui va rester de la résistance, on ne le saura pas. Ça va s'éteindre.
Nous sommes reconnaissants à M. Bourtoumieux et à M. Riette d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous les remercions chaleureusement d'avoir livré leur témoignage. Nous en saurons garder la mémoire.
Que soit aussi remerciée la chorale qu'interprète le chant hommage d'Henri Mouly au maquis du Guesclin. Nous tenons enfin à remercier sincèrement Nathalie Bouillard, régisseuse au centre culturel Aveyron Ségalavior de Rieux-Pérou,
dont l'aide précieuse a permis la réalisation de ce montage audio.
Écoutez, le dernier message que nous souhaitons, nous les survivants du maquis du Guesclin, c'est que cette mémoire soit prise en charge par les générations actuelles. Parce que c'est vous qui allez continuer l'histoire de la France, c'est vous. Donc, si nous partons et que cette mémoire ne soit pas diffusée, c'est une partie de l'histoire de France qui est oubliée. Oui. Donc je pense que c'est aux jeunes générations de prendre quand même en charge tout ce message d'espoir, de paix et de liberté qu'on vous a donné. Quand je vous dis tout à l'heure que maintenant vous trouvez la liberté tellement naturelle, mais nous on ne l'avait pas tellement naturelle. Dans ce message de paix qu'on vous a adressé, d'espoir et de liberté, ben, il faudrait que vous le conserviez. Et pour ça, vous savez, la connaissance du passé permet de mieux préparer l'avenir.
Alors bonjour, en direct de Radio Sans Fréquence, nous nous retrouvons à l'espace Gilbert Alauzé autour de la table Alechensky avec plein de jeunes garçons, Dédé Bourtoumieux, Chantal Aubert. Chantal, est-ce que vous pouvez nous expliquer en trois mots ce qu'il s'est passé ? Commencez.
Voilà, nous venons d'entendre le montage audio réalisé, qui est le fruit d'un travail collectif, celui de 6 élèves, Alexandre Taillefer, Hugo Struc, Johan Quinto, Élie Le Carme, June Michel, Kevin Dron, tous scolarisés au Collège public de Rieux-Pérou. Ils ont accepté, au cours de l'année scolaire, dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation, de s'engager dans un long travail, donc un travail autour du thème qui était « communication ». Et résistance. Ils ont réalisé cette interview. Le montage audio a été réalisé grâce à la coopération précieuse de Nathalie Bouillard. Et bien évidemment, nous devons un grand merci à messieurs Rillette et Bourtoumieux qui ont accepté d'être interviewés et qui ont accepté de raviver les souvenirs de cette époque-là. Et ce montage, bien évidemment, participe à l'entretien de cette mémoire qu'il faut que nous sauvegardions. Je vais donner la parole d'abord à M. Bourtoumieux, ensuite aux élèves qui sauront vous dire mieux que moi tout ce que nous a apporté cette rencontre, tout ce que nous ont apporté cette rencontre et ce travail. Je vous laisse la parole, M. Bourtoumieux.
Allez-y. Racontez-nous un petit peu, est-ce qu'il est important pour vous de faire passer cette information et parler de cette mémoire aux jeunes générations?
Oui, absolument. Absolument. Parce que aujourd'hui, toute cette mémoire en fout le camp. Bon, c'est dommage, mais. Quand on parle de résistance aux jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ce que c'est.
Et il me semble que vous avez eu des auditeurs extrêmement attentifs.
Ah oui, 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 oui. Oui, les quelques jeunes qui sont là, on les sent motivés.
Parce que vous leur avez correctement parlé avec votre cœur.
Oh, peut-être, peut-être.
Donc les jeunes, Alexandre, est-ce que tu voudrais nous dire... un petit peu ce qui t'est passé par le cœur et par les oreilles?
Ben, la chose qui est bien quand on écoute des souvenirs de personnes comme ça, c'est qu'on apprend ce qu'ils ont vécu pendant leur vie, que nous, on vivra pas. Et ça nous apprend aussi la façon dont les gens se battaient pour obtenir des choses qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que c'est très important de savoir ça.
Hugo, est-ce que tu étais conscient de tout ce qui s'était passé avant?
À peu près, oui, j'étais conscient. Mais comme dit Alexandre, enfin, il a dit qu'on le vivra peut-être jamais, mais peut-être que si. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce qui s'est passé.
Dis-nous un petit peu, vas-y, ton prénom.
Johan,
désolé.
Oui, ben c'est vrai que bon, on sait que c'est quand même une part importante de notre histoire, la résistance, la Deuxième Guerre mondiale. Faut savoir ce qu'ils ont fait à ce moment-là pour justement obtenir la liberté et ce qu'ils voulaient, parce que c'est sûr qu'on s'imagine vraiment que ça devait pas être facile à cette époque d'avoir tout ça.
Élie, c'est Dédé Bourtoumieux et Monsieur Rillette avec quasiment ton âge. Tu te sens une âme de résistant ?
Ah, non, pas aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans le contexte de la guerre, mais je pense que c'est très très important de garder un souvenir de ces combats qu'ils ont faits, tout ça pour la liberté qu'on a actuellement.
Jules, pareil, est-ce que tu as envie de continuer à laisser une trace et raconter un petit peu cet échange et raconter autour de toi, en discuter avec d'autres personnes?
Oui, là, il n'y a pas de problème, mais enfin, moi, je trouve ça aussi important parce que si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on va toujours refaire les mêmes erreurs et il n'y a rien qui va avancer.
Donc continue à faire passer cette trace.
Ouais, c'est ça.
Kevin, à ton tour, qu'est-ce que tu gardes, une petite anecdote, un souvenir, quelque chose, une émotion, qu'est-ce que tu gardes de cette rencontre avec Dédé Bourtoumieux et Monsieur Rayette?
Tout ce qu'ils nous ont dit a été important parce que ça nous touche tous autant qu'on est. Et voilà, c'est, comme je l'ai dit, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs, quoi.
Oui, d'autant plus. Alors, je ne sais pas si ça s'entend bien dans le reportage, mais il y a eu des moments d'émotion où il y avait vraiment des larmes dans les yeux. Et alors qu'il y a longtemps, il y a de nombreuses années que ça s'est passé, et l'émotion reste toujours présente.
Oui, surtout, dès qu'on en parle, ça revient. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, de toute façon.
Oui, c'est des cicatrices.
C'est trop... Pour nous qui étions vraiment... Il ne se figure pas. Parce qu'à leur âge, on avait. Enfin, je parle un peu pour moi, mais je pense que tout le monde était pareil. On avait quelques années de moins. On n'avait pas la communication qu'il y a aujourd'hui. Il y avait juste la radio, tout le monde ne l'avait pas chez moi, on ne l'avait pas. Les journaux, n'en parlons pas. Alors on apprenait comme ça, du bouche à oreille. C'était vraiment un autre monde. C'est pour ça que tout ce qui nous arrivait, c'était par bribes qu'on l'avait. On recevait. Ça fait qu'on ne pouvait pas juger les choses comme eux les jugeraient. Nous, on était vraiment, moi du moins, j'étais... J'étais dépassé par les événements, quoi. Il faut bien le dire.
Mais pas si...
Et tout s'est fait par coïncidence. Ça a tombé comme ça.
Donc vous n'avez pas eu l'air d'être si dépassé que ça parce que vous vous êtes engagé?
Oui, non, mais j'étais dépassé. On était dépassé par les choses. Ça... Oui, non, oui, d'accord. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est que J'ai trouvé le filon pour partir. Alors que la veille seulement, je ne savais pas que j'allais partir au maquis. C'est sûr, je n'en savais rien. Et quand je me suis pointé, ils ne me voulaient pas parce que j'étais trop jeune, en soi disant. Enfin, ils m'ont bien gardé la preuve.
Donc il faut savoir foncer. On garde ça en mémoire. Je crois que Chantal... vous êtes un peu pressé par le temps et que vous avez un cadeau à faire à M. Bourtoumier, à M. Rayette. Allez-y.
Il me semble. Alors ce cadeau, ce sont les élèves qui vont le faire, en témoignage bien sûr de notre gratitude et pour vous remercier encore de tout ce que vous nous avez apporté.
Alors c'est pas très radiophonique, mais Alexandre, Hugo, Kevin, Jules, Élie et Johan tentent de le céder à M. Bourtoumier. Essayez de parler, parce que... Dites-lui.
Voilà, c'est le CD de la réalisation qu'on a pu faire grâce à votre interview et à celui de M. Rayette. Merci pour tout.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous, monsieur.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et donc, grâce aux nouveaux médias, aux nouvelles technologies... Mais la mémoire, maintenant, elle est gravée. Ouais. Elle reste gravée dans un CD et on pourra vous entendre très, très, très longtemps.
Merci beaucoup.
Donc, un grand merci à tous. Les enfants, je vous dis au revoir. Enfin, les grands, je vous dis au revoir. Merci, Chantal, d'avoir passé tant de temps aussi pour construire tout ça. Merci, Monsieur Bourtoumieux, d'avoir passé du temps pour transmettre.
Moi, je ne suis pas un orateur.
C'est pas grave, vous avez fait, c'est le principal.